Bienvenue à Espace Visuel, au micro Pierre Archambault. Alors, j'ai vécu hier une expérience multisensorielle qui fusionne les images virtuelles, le mouvement et la musique. De plus en plus, la mixité des médias est explorée par certains artistes pour nous offrir des visions nouvelles où la réalité tangible est remise en question et nous permettre, entre autres, d'entrer dans un univers de rêve, de poésie au 21e siècle. Alors, mon invité est un designer visuel d'interaction et crée des images virtuelles pour des performances telles que Symphonie 5.1. Et c'est Jérôme Delapierre. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes président de la compagnie artistique fondée en 2004. Quel est le mandat de ce groupe-là et qu'est-ce qui vous a incité à former?
En fait, c'est un collectif d'artistes de plusieurs disciplines qui sont regroupées au sein d'une même association. On fait des interventions artistiques en marge de la production générale, c'est-à-dire qu'on vient faire des interventions un petit peu plus sociales, des choses in situ, improvisées. On vient générer des projets qui sont pas forcément budgétisés, mais qui viennent justement apporter le point de vue d'un artistique, c'est-à-dire démocratiser l'art contemporain, rentrer dans l'espace urbain, faire des interventions avec les gens, les collectivités, investir le côté social en général, par le biais de l'art numérique, de l'art interactif, des projections en général, et de tout ce qui est médiatique en général. Donc, il y a vraiment un mandat assez populaire, dans le sens où on donne accès à la culture, on vient jouer avec différentes disciplines, faire des partenariats avec toutes sortes de cultures et de disciplines.
Toujours par le biais des technologies récentes.
Oui, la plupart du temps, c'est ça. Les médias en général, donc ça peut prendre différentes formes, la vidéo, le son, ma spécialité étant l'art numérique. Mm-hmm. Mais ça peut être aussi des films, des documentaires, toutes sortes de produits.
Alors, vous êtes français d'origine et en 2007-2008, vous venez à Montréal pour étudier les arts technologiques. Pourquoi choisir Montréal et qu'avez-vous appris, qu'est-ce qui a fait grandir votre champ d'action artistique?
Bon, au départ, c'était tout simplement un voyage touristique. J'étais déjà très attiré par le Québec en général, particulièrement puisque le Canada. Et du coup, j'étais en fin de ma licence en France, à l'IMUS à Annecy. Donc, j'ai vraiment découvert le pays à travers simplement le tourisme, donc voyager, rencontrer les gens. Et j'ai eu l'opportunité de passer à Concordia pour, je cherchais un stage, donc pour finir ma licence, je trouve un stage de 3 mois. Et donc, j'ai rencontré des chercheurs à Concordia qui font partie d'Hexagram, qui m'ont accueilli, on s'est rencontrés. Puis, j'ai eu ce stage avec Michael Longford, qui est un chercheur qui travaille à Hexagram. Je me suis engagé dans ce stage-là. Et ensuite, de là, tout est parti. Je me suis inscrit à un master, etc. Et tout est parti d'une opportunité que j'ai saisie, des gens que j'ai rencontrés un peu au hasard. Et tout de suite, ça m'a beaucoup plu parce que j'ai eu une grosse différence entre la France et le Québec, en tout cas pour moi à cette époque-là. On me servait beaucoup d'infrastructures, beaucoup d'envergure, de projets, de budget aussi qui permettaient d'aller plus loin dans certains domaines. Et donc ce stage m'a vraiment transformé, ravi, et du coup, ça m'a vraiment motivé à rester ici, découvrir un peu plus, puis essayer de voir c'était possible de faire quelque chose à Montréal.
Et vous collaborez occasionnellement avec Topological Media Lab and Alchemy, atelier, c'est un long titre. Quel type de projet?
Ça, c'est vraiment le labo de recherche, donc qui est situé à Concordia, qui fait aussi partie d'Hexagram. Et c'est là où on vient construire des nouvelles manières d'avoir un lien à l'image. On construit des environnements interactifs, on travaille sur les capteurs, on travaille sur la programmation de ces environnements-là. On vient vraiment sans un but de production, mais dans un but de recherche pure, à savoir, c'est d'améliorer la relation à la technologie, et c'est d'arriver à de nouveaux types de manières de capter le mouvement, de créer des espaces immersifs, de transformer la matière. C'est pour ça qu'on parle de l'alchimie. Savoir qu'on vient mapper des choses, des objets pour les transformer, passer du sable au feu, beaucoup orienté sur l'organique. On fait des écrans de sable, on met du sable sur le sol et puis simplement on vient projeter là-dessus. On aime beaucoup ce côté organique. Donc c'est vraiment plein de recherches orientées avec Sha Xing Wei, qui est donc le directeur du laboratoire, et Michael Montanaro, qui est un chorégraphe danseur qui aussi qui me fait partie de cette production là et du coup ça me permet de entre deux productions d'aller chercher des développements de projets, vraiment de la recherche dans le sens où on crée des outils, des instruments qu'on utilise pour ensuite faire des productions.
La console avec manette et boutons est votre outil de travail et vous dites que prochainement les souris d'ordinateur et les consoles vont disparaître, remplacées par quoi?
Ben, plusieurs types, justement, c'est sur ce sur quoi on travaille, de capteurs. J'aime assez l'idée qu'il n'y ait pas de device ou en tout cas d'appareils physiques connectés au corps ou qu'on, par exemple les appareils mobiles, les capteurs qu'on place sur les danseurs, des choses qui vont nous rendre un petit peu cyborg. C'est pas quelque chose pour moi qui m'intéresse dans le sens où pour moi on parle plus d'enchanter des espaces, d'offrir des potentiels dans les espaces et non pas de transformer le corps en bionique ou quelque chose qui puisse simplement devenir une espèce de prothèse numérique pour pouvoir connecter à ce monde virtuel. Ce qui m'intéresse c'est de rapprocher les deux mondes de manière un petit peu transparente et sans avoir à rajouter quelque chose sur le corps qui est déjà assez riche et que j'aime garder pur.
Et l'exploration créative, est-ce qu'elle est plus vaste en relation avec la musique ou avec la danse?
En relation avec la danse, sachant que la matière première, comme je le dis souvent, c'est le mouvement en général, sachant que on utilise des caméras en général la plupart du temps pour voir ce qu'il y a dans l'espace. Donc on détecte une personne, on détecte un mouvement, la vitesse de ce mouvement-là, l'amplitude, tout plein de choses qui font que la danse, le corps en mouvement dans un espace, c'est la matière première de la création d'interaction, puisque sans le danseur, sans le mouvement, il n'y a rien qui se passe. C'est tout est basé là-dessus, donc c'est le danseur et le corps qui donnent l'impulsion dans cet environnement virtuel que je crée. C'est vrai que la musique, c'est intéressant parce que je travaille aussi pas mal en musique pour des concerts, comme Cœur du Pirate, aussi dans la pièce de Symphonie 5.1, il y a une partie qui est complètement sound reactive, ce qu'on appelle, donc qui réagit au son. On vient simplement analyser le spectre sonore pour faire réagir toutes sortes de formes ou d'environnements qui sont liés justement à l'impulsion du son, à l'input du son. Donc le musicien vient interagir, créer des visuels en fonction de comment il joue, la différence d'aigu, de basse, etc. Et aussi le rythme, plein de choses qui sont analysées pour que le visuel soit en connexion, en synesthésie avec l'image.
Les corps se modifient selon les projections visuelles de Jérôme Delapierre et Lucio Berio a modifié, lui, les visages avec des sons électroniques. Alors, de retour avec mon invité Jérôme Delapierre. Parlons maintenant de Symphonie 5.1, plutôt, chorégraphiée par Isabelle Van Grim, qui nous plonge littéralement dans un état de rêve grâce à des projections visuelles. Est-ce que vous avez dû vous conformer à des mouvements déjà configurés ou ça s'est fait en collaboration au fur et à mesure?
Ben, c'est une vraie collaboration dans le sens évidemment que Isabelle Van Grim a un langage, un vocabulaire chorégraphique déjà établi du fait de sa carrière. Donc elle arrive avec beaucoup de matériel chorégraphique, on a une vision commune, on s'est assis ensemble, on s'est dit où c'est qu'on veut s'en aller, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, mais elle a travaillé de son côté en studio avec les danseurs à l'avance. Pour, disons, avoir du matériel pour simplement pouvoir créer, développer des choses en ayant une source et puis une matière première. Mais je pense que le vrai travail s'est fait en salle, en résidence, puisque justement le lien avec l'image et les potentiels d'interaction avec les projections transforment la chorégraphie, offrent de nouveaux potentiels. Et donc, c'est un rapport, vraiment un dialogue de va-et-vient, pardon, un dialogue de va-et-vient entre l'image, le potentiel qu'elle peut offrir, qu'est-ce que ça fait de bouger de telle ou telle manière, la vitesse, le déplacement dans l'espace. Et donc ça transforme la chorégraphie. On a adapté certains mouvements, on a créé des choses ensemble qui dans un but commun arrivaient à un tableau particulier ou un ressenti particulier. Et donc ensuite j'ai modifié les visuels pour appuyer cette direction là donc c'est vraiment un va-et-vient, un beau dialogue entre chorégraphie et art visuel.
Est-ce qu'elle avait établi une certaine narration ou des concepts précis pour vous donner des pistes?
Ben, on parle, c'est assez conceptuel dans le sens où on parle vraiment de la perception du corps. On parle aussi de qu'est-ce que c'est que le futur de ces corps-là, comment questionner l'image numérique, qu'est-ce que c'est qu'un corps numérique, à travers aussi beaucoup d'utilisation d'images médicales, ce rapport au corps bionique, qu'est-ce que devient un corps qui est envahi par la technologie ou en connexion constante avec les technologies. On parle évidemment aussi de la communication à travers les technologies, comment ça change notre quotidien, la relation aux gens, la relation sociale, et aussi simplement un rapport aussi à l'identité en général, qui par le fait de passer dans ce mode virtuel, numérique, va transformer la manière dont on se voit, la manière dont les autres nous voient.
Mmh. Et l'option du blanc et noir pour la scénographie, c'est un choix esthétique ou technique ?
C'est un choix esthétique dans le sens où moi j'aime beaucoup travailler au niveau de l'image dans sa simplicité. Je suis pas forcément baroque dans le remplissage ou les textures absolument. J'aime les belles textures organiques, mais j'aime aussi le fait que le corps justement soit confronté à une rigidité du numérique qu'on représente et qu'on voit souvent.
Donc il y a beaucoup de géométrie. Là.
Tout à fait. Et ça m'intéresse justement de superposer la géométrie très très un peu froide finalement du numérique à des corps faits de courbes et de chair, et justement voir comment les deux peuvent se mêler à travers la première pièce qui s'appelle Trace, où on a un quadrillage très rigide qui se déforme de façon un petit peu sensuelle, je dirais, aux formes du corps et qui adapte cette rigidité à cette matière organique que le corps.
Mais comment s'est produit cette déformation-là de la grille par le danseur?
En fait, c'est une caméra infrarouge qui est placée au-dessus du stage, au-dessus de la scène, qui voit en fait toute la scène du dessus. Et la forme du corps est détectée, à savoir les courbes,
les
déplacements, les mouvements, etc. dans l'espace, qui font que à partir de cette image qui est traitée, analysée, on vient déformer, on vient un petit peu manipuler cet environnement numérique en fonction de la forme qui nous est donnée. Donc ce quadrillage vient prendre la forme du corps, s'adapter comme une seconde peau qui vient essayer c'est comme un costume numérique qu'on vient porter, et donc on voit jaillir des belles courbes de cet environnement rigide et géométrique.
Et parfois, les corps se dédoublent, se superposent, qui donne l'impression qu'il y a plusieurs personnes en fait sur scène. Est-ce que ça c'est programmé ou ça se fait en direct?
Donc ça, c'est une partie qui est préenregistrée. Et là où ça devient live, où ça devient finalement vivant, c'est que c'est le même vocabulaire chorégraphique qui est utilisé. Donc on filme les danseurs à l'avance avec une certaine phrase chorégraphique qui va être superposée à une performance live. Donc c'est un dialogue entre connexion, on est dans la synchronicité des mouvements. Donc on voit souvent le danseur qui fait exactement la même chose que le clone au même moment. Et on travaille sur ce décalage, ce désynchronisation. Tout ça, on revient, c'est un balancement entre connexion et déconnexion, un peu comme on peut le vivre dans notre rapport à la technologie. Et justement, c'est intéressant de créer pour nous quelque chose qui est assez réaliste pour justement amplifier ce rapport intrinsèque à l'image numérique où on ne sait plus si c'est réel, si c'est virtuel, et créer une belle illusion là-dessus.
Et comment est venue l'idée des deux lignes blanches qui traversent la scène et qui fragmentent en fait le corps des performeurs?
Ça, c'est une partie qu'on appelle scan, donc comme un scanner. L'idée, c'est de partir de l'élément très simple de comment la technologie peut nous voir, à savoir qu'il y a plusieurs techniques de tracking, ce qu'on appelle de reconnaissance de mouvement, reconnaissance faciale, etc. Et en partant de l'esthétique un petit peu de ces rapports à comment la technologie capte le corps, la ligne qui vient passer à travers le corps, donc qui vient scanner ce corps-là pour essayer de comprendre, de l'analyser, de savoir où il est, d'essayer d'imaginer comment on peut se connecter avec cette technologie-là. La ligne vient scanner le corps et essaie de voir, d'entrer en communication, si vous voulez, avec cet humain. Et donc, c'est une ligne d'abord dans laquelle les corps évoluent. On voit simplement une seule ligne, tout est noir. On voit juste un corps traversé par cette ligne. Donc, comment les technologies nous voient ou comment on peut réduire un humain à une certaine simplicité et vraiment une onde. On parle de fréquence aussi un petit peu. Et à ce moment-là, la deuxième ligne vient de créer. On va chercher le mouvement. Les danseurs jouent avec ce rapport à cette simplicité très minimale. Et donc, on voit des corps qui se dessinent au fur et à mesure à travers quelque chose d'extrêmement minimal. Mm-hmm. Donc, c'est intéressant le contraste entre justement la complexité et l'esthétique du corps et la simplicité numérique.
Et la musique de Tim Brady et Tom Gossage est directement liée au dessin lumineux avec une précision de quart de seconde. Est-ce qu'il y a des senseurs sur les instruments pour arriver à cette précision?
C'est assez simple en fait. Donc il y a 7 micros environ sur les percussions de Tom Gossage qui vont simplement entrer dans la table de mixage sonore. Et moi, je prends toutes ces entrées-là pour analyser le son. C'est-à-dire que c'est assez simple, au final. On parle d'analyse du son, de fréquence, des plus aigus jusqu'au plus grave, pour isoler certaines parties des instruments, pour qu'on puisse avoir une belle envergure d'interaction, savoir s'ils touchent les cymbales, plus les toms, ou les choses plus ou moins graves. Ça va créer des réactions différentes vis-à-vis des formes qui réagissent au son. Et donc, c'est offrir quelque chose, un instrument assez simple pour Tom Gossage d'évoluer là-dedans, et lui, ensuite, voit ça sur le stage, et donc improvise en fonction de comment ça réagit, et génère des choses par rapport à comment il joue.
Et qu'est-ce qui a été le plus complexe à réaliser dans votre design virtuel pour cette superbe création de Symphonie 5.1?
Le plus complexe, justement, c'est d'arriver à reconnaître le corps de façon organique. Souvent, la machine, les technologies nous offrent la possibilité d'avoir des informations assez primaires de ce que c'est qu'un corps, donc une position dans l'espace, un X et Y, on sait exactement où il est. On peut associer donc n'importe quel objet qui va le suivre. Là où ça devenait plus intéressant pour moi, c'est justement d'aller plus loin dans cette reconnaissance, d'embrasser la connexion entre la technologie et le corps, et justement d'arriver à créer des courbes, à reconnaître le corps dans son entier, pas simplement comme un individu ou un objet dans l'espace, mais vraiment sa sensibilité, ses courbes, son esthétique visuelle. Et à partir de ça, justement, en reconnaissant le corps avec beaucoup, beaucoup de points d'ancrage, on vient recréer cette forme de silhouette, ce corps vraiment qui devient virtuel, qui est analysé, qui devient en trois dimensions, qui devient virtuel et numérique. Et à ce moment-là, on vient représenter ce corps-là dans la complexité de ses courbes, de ses mouvements, de sa rapidité, de toutes les valeurs qu'il peut donner. Et donc, pour justement transformer cette rigidité un petit peu mathématique qu'on connaît des arts numériques.
Et pour tout le travail que vous avez exécuté, ça totalise combien de jours?
Il y a du travail en pré-prod, donc avant qu'on rentre en salle, il y a beaucoup de choses dont j'avais envie d'essayer, des instruments visuels donc qui font partie de ma carrière depuis un moment, que je trimballe avec moi dans ma petite valise. Et à ce moment-là, j'ai des choses qui sont prêtes, des instruments qui sont déjà possibles d'utiliser. Et le vrai travail de création se fait en résidence. Donc, on a un travail en amont quand même, d'avoir des choses qui sont disponibles, on sait qu'ils marchent, elles sont testées, etc. Mais le vrai travail en résidence, donc il y a eu 3 résidences de 2 semaines chacune, qui nous a permis de créer ça. Donc je sais pas exactement combien d'heures, mais c'est ça, en termes de semaines, on est à 6 semaines de création au total, en salle, tous les jours avec les danseurs, pour arriver à ce résultat-là.
Et parmi les projets, quel a été le plus stimulant, le plus satisfaisant dans tous les projets que vous avez réalisés?
C'est une question assez difficile dans le sens où j'ai la chance dans ma discipline d'avoir beaucoup de relations avec des collaborations de musique, danse et théâtre. Mm-hmm. Mais je pense que celui-ci, pour le coup, a été assez satisfaisant dans le sens où on est allé assez loin dans l'exploration numérique, on a eu le temps de créer, ce qui n'est pas souvent le cas en prod. Et donc je suis assez fier finalement du résultat, sachant que c'est une belle collaboration avec Isabelle Van Green aussi. Et le résultat est assez simple, efficace je pense, et du coup ça serait peut-être celui-ci d'ailleurs.
Alors c'est à l'Agora de la Danse au 840 Cherrier qu'il faut se rendre pour être ébloui vraiment par cette création collective présentée jusqu'à samedi. Et je recevais le concepteur visuel Jérôme Delapierre, merci beaucoup.
Merci à vous.
Alors nous sommes plongés dans l'univers du rêve avec Symphonie 5.1 et le compositeur québécois Panton nous amène au sommeil avec sa composition. Alors, je voulais spécifier aussi qu'il y a une salle d'exposition à l'Agora de la Danse qui montre le travail d'Isabelle Van Grim qui avait été exposé déjà à l'UQAM. Et ce que l'on voit, cette revisite de cette exposition a été conçue par Jérôme Delapierre que je viens de recevoir. Alors, je voulais souligner aussi l'Artothèque qui expose les œuvres de Marcel Barbeau. Marcel Barbeau qui est décédé tout récemment et à qui on a rendu hommage ce week-end au Salon B, boulevard Saint-Laurent. Il y a à la galerie Division deux artistes qui exposent leur œuvre. Il y a Sarah Ann Johnson qui se sert de photographies qu'elle retouche soit en les coupant, en égratignant, en peignant sur ces images. Donc, il y a des marques additives et parfois réductrices qui établissent une seconde couche d'indices. Et pour la plus récente série intitulée Field Trip, Johnson retourne visiter les festivals de musique qu'elle avait fréquentés dans sa jeunesse. Et également, il y a Martin Bourdeau qui expose une série d'œuvres plutôt minimalistes et surtout conceptuelles. Les deux expositions se termineront le 30 janvier. Et je voulais aussi reparler de Régénération qui est présentée à la SAD jusqu'au 5 février. Alors, c'est une œuvre immersive, 360 degrés, qui est présentée dans le dôme. Et c'est un peu la genèse de notre planète Terre, mais dans une vision totalement poétique et sublime, je dirais. Alors, au départ, on est sous un dôme qui ressemble beaucoup au dôme géodésique de Buckminster Fuller qu'on trouve sur les Sainte-Hélène. Donc, c'est formé de triangles qui se mettent à respirer et qui nous incitent à prendre ce rythme de respiration pour nous amener dans les étoiles. Et de là partiront une navigation dans l'espace avec des formes, des couleurs vraiment totalement magnifiques. Donc, je vous incite fortement à vivre cette expérience qui est d'une durée d'environ 40 minutes et c'est présenté tous les soirs à 19h, du lundi au vendredi seulement. Il n'y a pas de projection les week-ends. Donc, c'est boulevard Saint-Laurent, juste entre Sainte-Catherine et René-Lévesque. Et aussi, il y a une exposition ici même à l'auditoire. Alors, c'est une exposition d'un peintre d'origine africaine. Ce sont une série de tableaux abstraits lyriques. Alors, l'artiste s'appelle Nsole Bizeyame, égide de son prénom. Et il y a des œuvres de format environ 1 mètre par 1 mètre où la couleur est exaltée pour la plupart, ton pur et ton de terre, comme on voit assez fréquemment chez des artistes d'origine africaine. Donc, l'exposition se poursuit actuellement. Ce n'est pas toujours, les horaires sont très fluides et flexibles. Donc, si vous passez dans le coin, vous pouvez vous arrêter voir cette exposition à l'auditoire au rez-de-chaussée de Radio Centre-Ville. Et il y a Dazibao aussi qui présente des projections vidéo, entre autres de Michinari Lena Mille Ruyard, également Gabriel Loffel et Idad Nadia Bebousi. Donc, 3 types de projections sur des thèmes différents qui sont présentés également jusqu'au 30 janvier à la galerie Dazibao, qui est située au 54 à 55 avenue de Gaspé. C'est au nord de j'oublie le nom. Donc, je vous incite à visiter les expositions actuellement. Il y a l'ouverture de la saison hiver-printemps. Alors, à la réalisation et choix musical et au micro Pierre Archambault, à la mise en onde Jean-Édouard Mervilus, revenez-nous jeudi prochain 13h30 pour Espace visuel.
Contribuez au maintien de la seule radio communautaire multilingue de Montréal. En donnant maintenant de façon sécuritaire sur radiocentreville.com, vos dons sont déductibles d'impôts. Radio Centreville, 102,3 FM, un monde différent.
Un lieu de rencontre, de création, d'échanges interculturels. L'Auditoire est un café-bar-salle multifonctionnel en plein cœur du Mile End. L'Auditoire, pour favoriser la diversité culturelle et créatrice des habitants de Montréal. Adhérez maintenant. Des rabais sur la location de la salle et bien plus. Individu 25 $ par année, organisme 50 $ par année. Venez prendre un café avec nous et devenez membre. L'Auditoire, 514-303-6990. L'Auditoire, 5214 boulevard Saint-Laurent.
Ici Pierre Lahaye, horticulteur. Tous les jeudis de 15h à 16h, vous serez à l'écoute de mon émission « Une bouffée d'air frais ». L'environnement, la botanique, l'horticulture seront à l'honneur. Vous pourriez gagner 2 billets offerts par le Jardin botanique de Montréal en répondant à ma question sur les ondes de Radio Centre-Ville, le 102,3 FM. C'est un rendez-vous tous les jeudis de 15h à 16h.
Radio Centre-Ville, 102,3 FM.